Vous êtes sur 93.3 FM, c'est toujours Radio Campus avec Onda Bulle et j'ai l'immense plaisir d'être avec Antonio Lapone.
Bonjour à tout le monde. Bonjour.
Merci à toi d'avoir accepté donc cette interview. Aujourd'hui, donc, il va être question d'une photo, une photo de André Kertész, je prononce bien ?
Oui, Kertész, oui.
Donc, il s'agit d'une fleur blanche dans l'atelier d'un peintre, c'est l'atelier de Mondrian. Et qui vous a inspiré, donc, toi et Jean-Philippe Perrault, pour écrire donc, une histoire à partir de cette photo. Comment tu l'as découvert, cette photo, justement ?
En fait, moi et Jean-Philippe, on connaissait la photo, on l'avait dans notre atelier, chacun, donc c'est déjà étrange. Mais moi, j'avais envie de travailler avec Jean-Philippe, lui aussi, et on s'est retrouvés autour de cette photo quand Glénat a ouvert la collection Les Grands Peintres. Donc on a choisi Mondrian parce que c'était celui qui était plus proche à mon travail.
Justement, qu'est-ce qui t'a intéressé à l'origine dans l'œuvre de Mondrian ? C'est pas banal de voir un artiste bande dessinée, plutôt figuratif, partir sur un artiste abstrait comme ça ?
Je dois dire que ma côté graphiste a pris l'ampleur, donc je me suis dit pourquoi pas faire Rembrandt ou Toulouse-Lautrec. L'art de Mondrian m'a toujours fasciné, surtout la déclinaison qu'on a eue dans les années 60 avec Yves Saint Laurent, avec les robes et le design dans le mobilier. Et donc je me suis dit pourquoi pas. Et après on est tombé dans la surprise que bon, l'histoire de Mondrian elle se déroule dans les années 20. Donc on est retourné à l'arrière. Et pour moi c'était vraiment une époque à découvrir. Et donc j'ai découvert Paris des années 20, les années folles, la Paris sale, qu'on a mis en contraposition avec l'ouvrage de Mondrian, très propre, très linéaire, très moderne.
Et justement, tu parles donc de l'œuvre de Mondrian, mais est-ce que le personnage de Mondrian, tu le connaissais finalement avant ou tu t'intéressais surtout à son œuvre ?
Je suis intéressé surtout à son œuvre, même si j'ai étudié l'art à l'école supérieure, mais je dois dire que j'ai découvert pas mal de choses, comme lui, il détestait le vert, parce qu'il a dessiné beaucoup, il a peint beaucoup de paysages en Hollande, et pour ça, après, il a détesté le vert jusqu'à la fin de sa vie, et on n'a jamais vu du vert dans ses tableaux de la période, des styles, et new-yorkaise aussi.
Et justement, tu parles donc des autres œuvres de la collection autour des dialogues de la peinture. Et très souvent, les artistes qui dialoguent donc avec les artistes vont essayer de reprendre, par exemple, des effets de Klimt quand on fait une biographie de Klimt, des corps un peu plus décharnés quand on fait une biographie d'Egon Schiele. Comment, justement, il t'est venu l'idée de retravailler ce côté avec Mondrian, une fois de plus, qui est un artiste abstrait, pour essayer de vraiment faire passer son œuvre? Quels sont les effets que tu vas vraiment chercher à utiliser?
Je dois dire que je n'ai pas eu trop de difficultés. Je me suis laissé aller avec mon style et quand il a fallu comprendre son art, j'ai mélangé les deux sans me poser trop de problèmes. Le problème est né surtout quand j'ai dû dessiner la Paris de l'époque. Pourquoi ? Parce que j'adore le glamour années 60, mais là on a fallu dessiner les prostituées par exemple. Et c'était pas glamour du tout. Hein. Dans l'imaginaire, on voit des femmes, mais il faut imaginer des Bretonnes qui venaient à Paris, dans des conditions terribles, dans la rue. Et donc, je me suis dit, comment on peut faire quelque chose de sympa et de beau, même si on travaille pas dans la beauté. Et alors, voilà, c'était vraiment un défi, surtout le travail de décor de Mondrian.
C'est pour ça que tu as fait l'album en couleur directe, qui est une manière un peu de casser peut-être ton trait, qui est souvent traité avec un aplat très, très net. Là, le travail en couleur directe apporte justement des couleurs et des ambiances qui sont un peu différentes de ton travail d'habitude.
Bah, normalement, je suis reconnu pour la ligne claire, mais là, il fallait quelque chose de plutôt artistique. Moi, je me suis dit, si on travaille sur les grands peintres, et comme je travaille aussi pour des galeries d'art à Bruxelles, il fallait quelque chose à montrer après. Donc la couleur informatique, non. L'ancrage, absolument pas. Et donc je me suis décidé à faire du crayon avec de l'aquarelle sur des grands formats. Donc j'ai travaillé sur du papier coton 50 sur 70, énorme. Et j'ai pensé déjà à l'expo après. Donc le travail, le grand peintre devient aussi un travail d'artiste.
D'accord. Et donc tu dis que les pages faisaient 50 par 70, c'est vraiment un travail énorme. Ça ne posait pas de problème ensuite au façonnage de l'album ou c'était quelque chose que tu avais vraiment conçu dès le travail de début?
Ben, j'avais découvert déjà des autres auteurs qui ont travaillé sur des grands formats. J'étais à Paris, à la galerie 9e art, et j'ai découvert le travail de Frampé sur Little Nemo. Et lui, il faisait la moitié de l'album, 50 sur 70. Donc c'était 1m40 et 400, quelque chose comme ça, pour l'auteur. Donc je me suis dit, c'est génial, c'est beau. Mais après, je me suis maudit parce que bon, mon ostéopathe était très content de tout ça.
Hein. On trouve des moyens qu'on peut pour faire plaisir aux ostéopathes, toujours, évidemment.
Oui, tout à fait.
Donc, tu conçois vraiment tes albums finalement comme un travail d'artiste ou plus un travail d'artisan maintenant, par rapport à certains de tes travaux, peut-être les albums que tu as fait aux éditions Keynes, qui, sans être d'une qualité artistique moins, c'est pas la question, ont peut-être une approche moins poussée, en tout cas dans l'aspect artistique.
Ben, disons que là on avait envie de faire quelque chose de ligne claire, mais c'est vrai que je suis en train de me détacher de plus en plus, surtout parce que j'ai découvert que la ligne claire fait peur un peu au lecteur, parce que ça nous ramène toujours aux années 80, la publicité, certains artistes que bon, on n'a plus l'habitude de voir dans les librairies. Et parfois, ça fait peur, donc j'ai décidé de petit à petit abandonner l'ancrage. Pourquoi ? Parce que j'ai vu que le crayonné est déjà très important, dynamique, et parfois avec l'ancrage, on va le couvrir. Et on découvre, on peut plus découvrir la gestualité, le dynamisme. J'abandonne ça donc.
On va revenir un peu à l'album. Tu parlais justement donc de ta passion pour les années 60, le design, des choses comme ça. Tu fais donc effectivement d'ailleurs les albums aux éditions Keynes sur ce sujet. Pourquoi justement ne pas avoir traité Mondrian à cette période-là, qui était déjà aussi à New York et qui était aussi toujours après tout actif, et qu'est-ce qui t'a amené à vraiment travailler sur les années 20? Il y avait une idée d'un défi?
Non, parce qu'en fait, moi j'ai découvert avec surprise que le Mondrian, il est décédé dans les années 40. Donc tout ce qui est arrivé après, il n'était plus là. Donc moi aussi j'ai pensé que...
qu'il était décédé plus tard, je ne te le cache pas non plus.
Non, mais moi non plus. Son époque majeure était entre les années 20 et 40. Après il est parti à New York, il a commencé à travailler même avec du scotch, du papier collant. Mais c'est dans les années 60 que Yves Saint Laurent il a sorti la robe Mondrian. Et le design a découvert le style Mondrian. Donc parfois on connaît le style Mondrian, mais on ne connaît pas du tout l'art du peintre. Donc moi aussi je me mets dedans. Et j'ai étudié l'art. Hein. Donc, j'espère que ma prof ne va pas m'entendre. Parce que...
Mais j'en finis. On ne lui dira pas.
Non. En plus elle est italienne, donc ça va.
Mais justement, je reviens donc aux années 20. Il y a quand même pas mal de choses dans l'album qui rappellent le design. Tu as pris des objets aussi des années 20 que tu as cherché à adapter à ton style. C'était quelque chose qui vraiment te touche énormément, je suppose.
Oui, même si j'ai dû dessiner des voitures d'époque, c'était pas gay. Les vêtements aussi. La page la plus difficile, et Jean-Philippe rigole encore aujourd'hui, il y a une scène où il y a Mondrian qui danse la polka. Donc j'ai dû dessiner des accordéons, c'était pas du tout mon style, donc j'ai laissé vers la fin parce que ça m'a pris vraiment mal. Et en plus, on s'imagine Mondrian, mais là, Mondrian, on le découvre vers la page 25 de l'album, donc on n'a rien qui parle de lui jusqu'à la page 25. Pourquoi ? Parce qu'on doit choquer le lecteur, comme Francine, elle est choquée quand elle ouvre la porte. Mondrian, il est malade. Elle va l'aider et elle ouvre une porte, la porte de son atelier et bam, elle prend tout en face l'atelier qui est aseptique avec des machins blanches, rouges, noires. Et voilà, c'était ça le choc à la moitié de l'album, découvrir son atelier.
Et à ce moment-là, d'ailleurs, tu fais des planches où les cases ont vraiment rappelé les peintures de Mondrian.
Oui, parce qu'au départ, on a fait un storyboard classique avec Jean-Philippe. Et après, je me suis dit, quand on voit les tableaux de Mondrian, ce sont déjà des cases. Donc, il faut juste les remplir. Hein.
Et c'est du beau travail.
merci.
On en revient justement à ton choix de la couleur directe. Dans ce travail-là, donc, tu parles surtout donc, de l'aspect galeriste de la chose. Est-ce que c'est aussi une manière pour toi de créer des ambiances peut-être plus facilement ? Quel a été pour toi le challenge à ce niveau-là ?
Surtout essayer de trouver les moyens d'utiliser la couleur sans faire de la BD classique. J'avais vraiment envie de donner des ambiances. Donc on a les prostituées, on a les rues bleues. Oui. Parce que c'est la nuit. Bien sûr. Et pour laisser l'espace au blanc. Le blanc, il est très important dans l'art de Mondrian. Et sinon, les couleurs bruns, les marrons, pour montrer vraiment la vie de tous les jours. D'accord. Ah, et surtout le rouge.
Oui, bien sûr. Mm-hmm.
On a imaginé Francine rouge comme l'amour, comme les tableaux. Mm-hmm. Donc ce qui est le rouge, parfois, c'est vraiment des choses qui touchent vraiment Mondrian, comme la musique.
Donc la couleur a quand même du sens, et c'est ça qui est quand même important de faire comprendre quand on fait une bande dessinée, même si effectivement les couleurs Mondrian vont être assez neutres, mais en même temps voilà elles vont exprimer des choses de sa vie, c'est ça pour toi?
Tout à fait, oui. Et on a fait attention d'utiliser le vert, pas pour le respect du peintre, mais parce qu'à un certain moment il voit le bois en face de lui, il commence à toussir. Les gens lui demandent: qu'est-ce qui se passe, tu n'es pas à l'aise? Non, je déteste le vert. Voilà, et il change de place.
L'album est accompagné d'un magnifique carnet graphique. C'est aussi une part pour toi de montrer les coulisses d'un album, c'est important?
Moi j'essaie toujours de mettre quelque chose après. C'est ça que je cherche dans des albums. J'adore voir qu'est-ce qui se passe derrière la recherche d'un artiste, et je montre aussi aux gens, les lecteurs, que c'est pas évident de travailler pour une BD. Les gens, ils imaginent toujours pourquoi, parce qu'ils ont vu une émission qui parle de Pixar, par exemple, qu'ils mettent dans l'ordinateur, dans le logiciel, des machins, et après, paf. Les gens pensent que le travail d'artiste d'une bande dessinée, c'est la même chose. C'est un smoothie qui sort comme ça. Non, il y a une vraie recherche, et encore aujourd'hui, après 60 ans de bande dessinée, on est encore aveugle. Donc je montre vraiment les passages pour arriver à créer le personnage, par exemple.
Et justement, il est important de rappeler que ce n'est pas parce qu'un dessin peut être assez simple, sans peu de détails, que c'est un dessin, au contraire, qui est très compliqué, qui va exiger justement de trouver l'essentiel.
Oui. En fait, moi, parfois, je pars de certaines photos, mais on ne peut pas dessiner une femme comme on la voit sur une photo. Ce n'est pas beau. Il faut retrouver toutes les lignes, les courbes, et même Mondrian, j'ai passé des heures à le dessiner, même la danse. Et quand je vois les crayonnés, je me suis dit, c'est déjà parfait le crayonné, mais pas parce que c'est parfait mon dessin, parce que la ligne au crayon est déjà parfaite.
D'accord. Est-ce que tu aurais d'autres envies d'artistes avec lesquels tu aurais envie de travailler?
Ben, on parlait aujourd'hui justement avec des lecteurs qui m'ont demandé ça, et j'ai dit pourquoi pas le futurisme. L'époque futuriste est très dynamique, très forte aussi, et pourquoi pas, ça peut être intéressant pour le futur, je ne sais pas.
Toujours dans les années 20 ou...
Non, le futurisme est dans les années 30 et 40.
C'est un peu plus tard, effectivement.
Oui, mais il y a des belles choses.
D'accord. Écoute, on va arriver au bout de l'interview. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, peut-être, qu'on n'aurait pas évoqué?
Que parfois, travailler avec un dessinateur scénariste, ça aide beaucoup. D'accord. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent aussi tes problèmes, et on se retrouve toujours au milieu de la table. D'accord. Donc on reste jamais chacun de son côté. Et on arrive toujours à avoir le respect de l'autre. Et donc c'est pour ça qu'on va organiser à Amiens, le Festival d'Amiens, une belle expo sur Mondrian, et on va mettre en valeur son travail de scénariste et mon travail de dessinateur. Donc pour la première fois, on sera là ensemble.
Et merci à toi, et en espérant donc découvrir cette exposition très bientôt.
Merci à vous, merci, au revoir.